Bienvenue à Futuristique 3.0, le podcast qui va à la rencontre d'humains passionnés d'innovation, de création futuriste et d'invention. Je suis Laurence Esso, consultante agréée en relations publiques. Avec mes invités, nous parlerons de Metaverse, d'intelligence artificielle, de NFT et de bien plus. Nos échanges permettront de démystifier les nouvelles tendances technologiques. Ensemble, nous tenterons de comprendre leur influence sur notre monde et sur la manière dont nous pensons, communiquons et interagissons. Embarquez avec nous pour cette odyssée d'un futur déjà bien proche. Dans ce troisième épisode, nous parlons d'éthique et d'algorithme. Nous reviendrons à la genèse de l'algorithme et de l'intelligence artificielle, puis nous mettrons en avant certains de leurs impacts sur nos vies et nous découvrirons ce qu'est un algorithme bienveillant. Tout ceci avec Philippe Baudouin, cofondateur et CEO de Waverly et ex-cofondateur d'Element AI. Philippe est également un mentor au sein de divers incubateurs technologiques, notamment Founder Fuel ou Techstars, et il est membre de conseils d'administration d'organisations telles que le Printemps numérique et la fondation du Centre des sciences de Montréal, entre autres. Bonjour Philippe.
Bonjour Laurence.
Merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Pourrais-tu nous en dire davantage sur ton parcours et sur Waverly?
Oui, avec plaisir. Donc, moi, je suis un peu un hybride entre le monde académique et puis le monde de l'entrepreneuriat, le monde plus industriel. J'ai fait mon doctorat en informatique, plus précisément en informatique graphique. On faisait des petits robots qui marchaient virtuels. Et puis ensuite, j'ai travaillé chez Google pendant 5 ans, différents rôles, en particulier sur Chrome, le furteur que vous connaissez probablement. Et après 5 ans, là, j'ai fondé une compagnie qui s'appelait Element AI, qui a été acquise il y a à peu près 1 an par ServiceNow. Et là, j'étais en charge de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée. Donc, je travaillais avec beaucoup de chercheurs qui faisaient de l'intelligence artificielle, toutes sortes d'intelligence artificielle, autant en vision qu'en compréhension de la langue naturelle, donc des différents domaines. Et puis, depuis un peu plus d'un an maintenant, j'ai cofondé une compagnie qui s'appelle Waverly. Et notre but, c'est de montrer qu'on peut faire des algorithmes, les trucs... Qui sont derrière les recommandations que vous avez sur vos différentes plateformes, que ce soit YouTube, Facebook, Twitter. Toutes ces plateformes-là ont des algorithmes derrière eux, mais ils fonctionnent tous de la même façon. Et nous, on a la prétention de révolutionner cet univers-là en créant des algorithmes qui soient plus respectueux des personnes derrière les algorithmes. Donc, les personnes qui reçoivent les recommandations, les personnes qui créent le contenu. Donc, des algorithmes qui soient plus éthiques, plus transparents, plus contrôlables.
Alors, c'est génial. On aimerait ça en savoir plus parce que, justement, on parle d'algorithmes Facebook, Google, LinkedIn. Il y a aussi les robots conversationnels qui font de plus en plus partie de nos réalités. Alors, pour la plupart des gens, on a tout de même une vague idée de ce que c'est. Cependant, j'aimerais vraiment ça, qu'un expert tel que toi nous ramène un petit peu à la genèse de tout ça, pour comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé là et aussi que tu puisses nous expliquer ce qu'est réellement un algorithme.
Oui, avec plaisir. Écoutez, d'abord, peut-être que c'est important de distinguer les robots conversationnels des algorithmes de recommandation. Les robots conversationnels, c'est des petits chatbots, là, des fois, on en a sur des pages web, des choses comme ça. C'est pas si répandu que ça. On peut avoir un petit échange avec Alexa, mais c'est pas si répandu que ça. Ce qui est très, très répandu, ce sont les algorithmes de recommandation. On va souvent les appeler juste des algorithmes, même si le terme est un petit peu faux, là, parce qu'en informatique, un algorithme, c'est plus large que ça. Mais disons qu'on va parler là aujourd'hui d'algorithmes de recommandation. Qu'est-ce que c'est exactement? Bien, quand on va sur une plateforme, que ce soit Facebook, Twitter, YouTube, toutes les plateformes que vous aimez, il y a une quantité astronomique de contenu qui pourrait potentiellement vous être présenté. Il y a des millions de vidéos sur YouTube, des tweets, il y en a probablement des millions à chaque jour qui sont écrits. Donc, il y en a trop. Il faut choisir lesquels vont être présentés. Le truc qui choisit quelles unités de contenu, quels petits morceaux de contenu vont être présentés. C'est ça, l'algorithme de recommandation. Il y a plusieurs façons de choisir les unités de contenu. La façon la plus simple, c'est ce qu'on appellerait un algorithme chronologique qui va vous présenter les plus récents tweets ou les plus récents vidéos. Mais c'est souvent pas les plus intéressants pour vous. Donc là, c'est là qu'on a commencé à développer des algorithmes qui étaient plus raffinés, qui essaient avec différents moyens de trouver ce serait quelles unités de contenu qui vaudraient la peine de mettre de l'avant dans la quantité astronomique d'unités de contenu qui existent, qui pourraient vous être présentées. Donc, à la base, c'est tout ce qu'un algorithme de recommandation essaie de faire.
Okay, d'accord, mais si de façon générale aussi, on sait que les algorithmes sont reliés avec l'intelligence artificielle. Alors, peux-tu nous expliquer le lien entre les deux pour que ce soit un peu plus clair pour nous? Et est-ce qu'ils sont toujours interdépendants?
C'est exactement là où le bas blesse, c'est la question qui tue. C'est ça qu'il faut se demander, comment on fait ces algorithmes de recommandation-là? Parce que à la base, il faut que le système soit en mesure de déterminer qu'est-ce qui va être plus intéressant pour vous, pour moi, pour un utilisateur. On est tous différents. Donc, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'ils vont regarder comment vous vous comportez sur la plateforme. Sur quoi vous cliquez, sur quoi vous passez du temps, quand vous mettez un like, quand vous commentez. Vous avez plein d'actions que vous pouvez prendre sur la plateforme et le système va analyser ces actions-là. Il va essayer d'évaluer à partir de ces actions-là si vous appréciez le contenu qui a été proposé ou pas. Un exemple intéressant, c'est TikTok. Okay? TikTok va regarder combien de temps vous passez sur chaque vidéo avant d'aller au suivant. Puis à partir de là, il y a une intelligence artificielle qui rentre en ligne de compte, qui regarde si tu as passé beaucoup de temps sur une vidéo, quelles caractéristiques du vidéo semblent prédire ça, le fait que toi ou quelqu'un d'autre ait passé beaucoup de temps sur une vidéo. Et là, ça peut être le ton est rapide. Ça peut être c'est un gars qui présente la vidéo. Ça peut être ça parle de chat. Il y a plein de caractéristiques qui sont propres à la vidéo qui peuvent être en mesure de prédire si oui ou non l'utilisateur va passer plus de temps dessus. Et faire cette prédiction-là, c'est le travail de l'intelligence artificielle.
Et aussi, justement, en parlant d'intelligence artificielle, lorsque je faisais mes recherches sur le sujet, j'ai découvert qu'il y avait trois concepts clés à distinguer. Donc, il y a l'IA en elle-même, l'intelligence artificielle, le machine learning, donc apprentissage machine, et le data science, la science des données. Est-ce que tu pourrais nous aider à différencier les trois? Parce qu'il semble que c'est bien important quand on parle d'intelligence artificielle de faire la différence, la distinction entre les trois. Et nous donner aussi quelques exemples pour illustrer.
Oui, c'est une bonne question. Hein. Il y a beaucoup de concepts qui sont faciles à mélanger dans cet univers-là. Puis des fois, on se demande, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est différent? Commençons par le terme intelligence artificielle qui a été inventé par des chercheurs académiques dans les années 50. Ça a été mis de l'avant pour parler du fait qu'on était en mesure, on s'apprêtait à créer des machines qui semblaient de plus en plus démontrer des signes qu'on attribuait précédemment à l'intelligence humaine. Donc, la capacité à jouer un jeu comme les échecs, des choses comme ça. On pensait que juste les humains pouvaient le faire. Puis là, soudainement, on est capable de faire des machines qui sont en mesure de faire ça. Puis on a dit, la branche de la science de l'informatique qui étudie ça, on va appeler ça l'intelligence artificielle. Mais c'est un terme très mal défini parce que, historiquement, quand on faisait des machines qui étaient capables de jouer aux échecs, on utilisait des trucs qui étaient complètement différents de ce qu'on utilise aujourd'hui pour faire des machines qui sont capables de jouer aux échecs. Donc, oui, le résultat est le même, puis le résultat semble être intelligent, mais la façon dont on y arrive est complètement différente. Donc, il y a plein de techniques qui sont utilisées pour faire des machines intelligentes. L'intelligence artificielle, ça pourrait être l'ensemble de toutes les techniques qui ont été utilisées à travers les âges pour faire des machines qui ont l'air d'avoir des comportements qui se rapprochent de l'intelligence. Maintenant, le machine learning, l'apprentissage machine, c'est la saveur du mois, c'est des dernières années, disons. C'est la technique qu'on utilise en intelligence artificielle qui nous permet d'avoir ou de créer des machines qui apparaissent comme étant le plus intelligent ou en tout cas qui sont en mesure de développer, de résoudre des problèmes qui semblent demander de l'intelligence. L'apprentissage machine, ça consiste à poser un problème comme étant un problème qu'on dit d'apprentissage, c'est-à-dire voici ce qu'on observe, voici l'objectif et est-ce qu'on est capable de mettre entre les deux une machine qui va prendre ces observations-là et les connecter à l'objectif et apprendre à partir de là. Donc, c'est essentiellement une machine qui est capable d'apprendre à partir de données. On appelle ça l'apprentissage machine. Et comme je l'ai dit, c'est la base de l'intelligence artificielle aujourd'hui, au point où les deux termes, quand on les utilise aujourd'hui, sont presque interchangeables. On parle d'intelligence artificielle, on parle presque assurément d'apprentissage machine aujourd'hui. Maintenant, la science des données, c'est un peu autre chose. La science des données, c'est là où on met encore de l'humain dans le système. C'est là où le cerveau humain reste important. C'est-à-dire, des fois, on a un paquet de données sur un problème et là, on ne sait pas trop quoi faire avec. On sait qu'il y a de l'information dans ces données-là. On pourrait peut-être mieux comprendre nos utilisateurs, mieux comprendre les acheteurs de notre produit, mieux comprendre comment les gens se déplacent en voiture à travers la ville. Donc, on a plein de données qui ont trait à un problème particulier, puis on veut essayer de trouver de l'information dans ces données-là. Souvent, on ne peut pas juste donner ça à une intelligence artificielle aujourd'hui. On a besoin d'humains qui vont jouer dans ces données-là, qui vont les triturer dans tous les sens, qui vont utiliser leur compréhension de la situation pour les analyser et qui vont à la fin arriver avec des insights, avec des idées ou de l'information à partir de ces données-là. Et ça, les humains qui font ça, on va appeler ça des scientifiques des données, des data scientists. Ils utilisent un ensemble d'outils, un des plus populaires, on appelle ça les Jupyter Notebooks. Là, c'est une façon un peu de programmer interactivement à travers où est-ce qu'on utilise beaucoup les données et puis on est capable de faire sortir de l'information de ça. Et à la fin, ça va donner soit un rapport qu'on donne à notre patron pour qu'il comprenne mieux ce qui se cache dans les données, ou des fois, ça va faire un dashboard qu'on va utiliser au quotidien pour mieux comprendre comment un système ou une application fonctionne.
Mais c'est fascinant et puis c'est intéressant de quand même voir que oui, il y a toujours des humains en arrière pour justement programmer, travailler les données, etc. Et c'est pourquoi d'ailleurs on va aborder les questions d'éthique maintenant et on va parler un peu plus de Waverly. Parce qu'aujourd'hui, le public se retrouve vraiment submergé par une explosion de contenu sur les réseaux sociaux et le web. Et ça, c'est une évidence pour tous, hein. C'est d'ailleurs un phénomène qui a été intitulé « Le choc du contenu » par Mark Schaeffer, qui est un conférencier et futuriste du domaine du marketing. Aussi, on apprend que le choc du contenu nous emmène à développer des mécanismes de protection tels que le repli sur soi ou la dissonance cognitive. Et ça, c'est d'ailleurs ce que plusieurs ont dû expérimenter pendant la pandémie avec le déluge de désinformation que le monde entier a dû subir. Ça, on l'a d'ailleurs appelé aussi une infodémie. Donc, selon ce que j'ai compris, Waverly pourrait apporter une réponse à ces phénomènes, notamment grâce à son algorithme bienveillant. Alors, qu'est-ce que c'est que cet algorithme bienveillant et comment est-ce que vous pensez répondre à ces défis?
Oui, donc effectivement, on peut faire la liste de tous les problèmes qui semblent être causés par le déluge d'informations auxquelles on fait face. Et dans le cas de Waverly, on pose l'hypothèse que une des raisons pour lesquelles on se sent un peu mal à l'aise par rapport à la quantité d'informations qu'on reçoit, là, parfois ce malaise-là se traduit, on sent qu'on devient accro, addict à quelque chose. Parfois, on sent qu'on tombe dans une bulle de filtre ou on devient de plus en plus anxieux. On pense qu'une partie du problème vient du fait que l'environnement d'information dans lequel on se trouve est géré par des algorithmes qui n'ont pas vraiment à cœur de créer notre environnement idéal. Souvent, les gens vont s'informer à partir de Facebook ou à partir de Twitter. Et le but de ces algorithmes-là, ben, c'est le but de la corporation derrière, c'est-à-dire généralement de vendre de la publicité. Donc, de garder les gens le plus longtemps possible sur la plateforme pour que ces gens-là puissent consommer le plus de publicité. Et la manière dont on garde les gens sur une plateforme, c'est pas nécessairement la manière dont t'es la plus bienveillante pour ces personnes-là. Si on demandait aux gens... comment tu souhaites passer ton temps? Les gens nous répondraient quelque chose, mais si on regarde la façon dont ils passent leur temps, bien, on voit qu'ils font souvent autre chose que ce qu'ils disent. Donc, il y a une distance entre les aspirations des gens, la façon dont ils souhaitent utiliser leur temps ou dont ils souhaitent s'informer, et la façon dont ils font en pratique. Le but de Waverly, c'est de de remplir ce fossé-là, de tracer un pont dans ce fossé-là pour permettre aux gens d'exprimer leurs aspirations, d'exprimer leur environnement d'information idéal en utilisant leurs propres mots. Donc, Waverly, c'est essentiellement un système de recommandation à base de langue naturelle, de compréhension de la langue naturelle. Les gens expriment leur expérience de découverte ou leur expérience de recommandation idéale dans des petits paragraphes. Ils peuvent parler du sujet qui les intéresse ou dont ils aimeraient entendre plus parler, du moment où ils aimeraient entendre parler de ça, des gens dont ils voudraient entendre parler plus. Peu importe, ils écrivent ce petit texte-là et c'est ça qui est le cœur qui va, le cœur de Waverly. C'est à partir de là que notre algorithme de recommandation va choisir les unités de contenu, va les ordonner puis va les présenter à l'utilisateur. Et de ça, on appelle ça, dans notre cas, on appelle ça un algorithme bienveillant parce qu'on pense que clairement, en écoutant l'utilisateur plutôt qu'en regardant la façon dont il se comporte, on se rapproche de ses aspirations, on se rapproche de ce qu'une personne bienveillante pourrait essayer de faire pour l'utilisateur.
Et j'aime vraiment cette idée parce que ça me donne, on remet vraiment l'humain au centre, en fait, au cœur de la technologie, de l'intelligence artificielle, des algorithmes, etc. Ce serait un défi, en fait, de bâtir une liste exhaustive de tous les enjeux, de tous les défis qu'on peut rencontrer face aux algorithmes et à l'intelligence artificielle en général. Mais un autre enjeu auquel les usagers doivent souvent faire face, c'est celui de la transparence en ce qui concerne le fonctionnement des algorithmes. La Global Alliance, qui est un regroupement des principales associations et institutions internationales en relations publiques, a préconisé d'appliquer le principe de transparence et divulgation pour demeurer éthique dans la conception ou l'usage des algorithmes. Puis effectivement, une autre façon de protéger les usagers serait par exemple de les informer de la façon dont fonctionnent, la façon dont les algorithmes collectent les données sur eux et comment sont utilisées ces données par la suite, ce qui pourrait probablement les aider à faire un meilleur choix des applications qu'ils utilisent. Et pour t'avoir entendu sur le sujet, il me semble que tu es également très ouvert à ce principe de transparence, que ce soit pour les GAFAM ou les autres compagnies du secteur. Pourrais-tu exprimer ton point de vue là-dessus?
Oui, c'est certain que la transparence et le contrôle, dans le cas de Waverly, ça va de pair et c'est au cœur de l'algorithme qu'on fait. Si on permet aux gens de s'exprimer dans leurs propres mots, eh bien ensuite de ça, on peut lire ces mots-là et puis si c'est ça qui est au cœur de l'algorithme et on comprend en fait comment l'algorithme fonctionne, en tout cas, du moins, il va essayer de se baser sur ces mots-là pour faire son travail. Donc, transparence, contrôle, pour nous, ça va de pair. Mais c'est définitivement pas ce qu'on observe sur la plupart de nos plateformes. Donc, en ce moment, les algorithmes sont très peu transparents. On comprend pas trop pourquoi un YouTube va mettre de l'avant une vidéo plutôt qu'un autre. On voit qu'il y a des liens avec la popularité du vidéo, le nombre de likes, ces choses-là, mais de là à tracer le lien de cause à effet directement, c'est pas évident. Et la vérité, c'est que même si on demandait à un ingénieur qui travaille sur ce produit-là, il pourrait pas nécessairement nous le dire parce que le résultat vient justement, on parlait d'apprentissage machine plutôt, le résultat vient d'un processus d'apprentissage machine qui va essayer de faire ce qu'on appelle de l'inférence, c'est-à-dire d'identifier quelle caractéristique d'une vidéo corrèle avec le fait qu'il devrait être présenté ou pas. Et c'est des boîtes noires, c'est difficile de les ouvrir puis de les comprendre. Donc, l'espèce de transparence où est-ce qu'on aurait noir sur blanc, voici comment l'algorithme fonctionne, est un petit peu difficile à envisager. Ce qu'on peut envisager, cependant, ce sont des mécanismes qui permettraient au public, à la société, d'auditer ces algorithmes-là, de comprendre à travers un certain nombre d'expériences la manière dont ils fonctionnent. Est-ce que il y a un exemple, je pense que c'est le c'est-tu le Wall Street Journal qui a fait une expérience récemment avec TikTok où ils ont essayé de comprendre comment l'algorithme fonctionnait en prenant 100 robots, 100 personnes, je pense, qui ont demandé à 100 personnes de suivre, de faire défiler sur leur fil TikTok des vidéos, mais en passant plus longtemps sur certaines formes de vidéos. Je pense que c'était des vidéos plus conspirationnistes ou des choses comme ça, et de voir combien ça prenait de temps à l'algorithme pour commencer à recommander des vidéos de cette nature-là. C'est quand même intéressant comme expérience et ça nous offre une forme de transparence quand, comme société, on est en mesure de faire ça. Donc, il y a des initiatives en ce moment qui existent pour forcer, disons, les GAFAM, les grandes entreprises technologiques, à offrir des mécanismes d'audit de leur plateforme. Et ça, à mon avis, c'est très prometteur comme, comme avenue. Et puis, j'espère qu'on va voir du progrès de ce côté-là dans le futur.
Mais effectivement, parce que c'est sûr qu'on ressent une certaine réticence de la part de ces compagnies à franchir le pas de la transparence au-delà de ces initiatives d'audit. Est-ce que tu penses qu'il y aurait d'autres moyens de les motiver davantage à aller dans cette direction?
Oui, je pense que ça va venir du côté législatif. Il va falloir les forcer à travers nos lois à s'ouvrir un peu. Et là, ce qu'on voit souvent, ben on va voir de la réticence de leur côté qui va venir en, souvent ils vont opposer le fait que la technologie permet pas ce genre de transparence-là. La vérité, c'est que ben comme on vient de discuter, il existe des mécanismes de transparence qui permettent d'accéder à une certaine transparence qui soit pas nécessairement voici le code de l'algorithme, voici la façon dont l'algorithme fonctionne, voici l'ensemble des données qu'on collecte sur les utilisateurs. Toutes ces choses-là sont un petit peu... On a l'impression que ça nous offre de la transparence, mais en réalité, pas vraiment. Et moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est justement ces mécanismes d'audit-là. En partie parce que c'est la façon dont ces entreprises-là comprennent leurs propres algorithmes. Ils roulent constamment des expériences sur leurs propres algorithmes où ils essaient des variations de certains paramètres là, de l'algorithme, et ils voient quel impact ça peut avoir. Donc, ils vont faire une variation, ils vont l'offrir à un très petit pourcentage d'utilisateurs, ils vont voir comment les utilisateurs répondent. Et si ça va dans la direction dans laquelle ils veulent aller, ils vont implanter le changement, sinon ils vont le laisser tomber. Mais comme ils utilisent déjà ces mécanismes-là pour mieux comprendre les algorithmes, j'ai l'impression que comme société, on devrait faire des lois qui disent, ben écoutez, on devrait avoir la possibilité de faire des expériences comme ça, mais avec un objectif qui soit socialement désirable, par exemple, de pas faire de discrimination homme-femme sur YouTube. C'est un exemple, mais comme société, on pourrait décider, on n'en veut pas. Donc, donnez-nous les moyens de faire une expérience sur votre plateforme qui va nous permettre de valider si oui ou non ce genre de biais-là est créé.
Et j'aime bien que tu abordes justement le point du cadre législatif, parce que récemment, comme tu as dû le voir passer, l'UNESCO a adopté un premier texte mondial sur l'éthique de l'intelligence artificielle pour justement encadrer et éviter les dérives, parce que bien qu'on reconnaisse tout le bien que les algorithmes procurent à la société, on peut quand même pas passer à côté de certains dangers qui ont été mis en avant, notamment par des documentaires Netflix que tout le monde connaît aujourd'hui, Coded Bias ou The Social Dilemma, qui ont parlé de l'effet amplificateur de certains algorithmes sur les inégalités sociales, les injustices raciales ou tout simplement le non-respect de certaines libertés. Sans oublier récemment la lanceuse d'alerte de Facebook, Frances Haugen, et tous les autres scandales qui ont vu le jour depuis l'époque de Cambridge Analytica. Donc pour moi, c'est sûr que ce texte mondial tombe à point nommé, et c'est un bon début parce qu'il préconise d'ailleurs pour ses pays membres, notamment la mise en place d'un outil législatif pour encadrer et surveiller les intelligences artificielles. Sauf que, mais les États-Unis, qui sont pourtant un acteur majeur du secteur avec la Silicon Valley, ne font plus partie de l'UNESCO, avec Israël aussi d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que, selon toi, on pourrait faire au-delà pour les développeurs aux États-Unis ou pour les GAFAM?
Ouf! Oui, je pense que cette question-là sort un peu de mon champ de compétences. Je trouve ça super intéressant, les initiatives pour essayer de donner un cadre législatif un peu plus rigoureux pour le développement de l'intelligence artificielle. En général, j'ai tendance à penser que quand on limite trop ça à l'intelligence artificielle, on se heurte au problème qu'on a évoqué en tout début de conversation, le fait que l'intelligence artificielle soit plutôt mal définie. Ça nous cause un problème dans nos textes législatifs, puis on le voit là, je pense que l'Union européenne est en train de en a proposé un récemment, puis là, leur définition de l'intelligence artificielle est toute mélangée. Ça cause plein de problèmes quand on s'attarde à ça. Moi, j'aime plutôt les initiatives qui essaient de regarder l'impact potentiel que peut avoir n'importe quelle technologie, l'intelligence artificielle en étant une là, qui a beaucoup d'importance aujourd'hui, mais l'impact d'une technologie qui permet de prendre une décision. Et quand on regarde cet impact-là, bien, on peut avoir différents mécanismes pour essayer de le réduire. Comment on appelle ça le nom m'échappe, mais il existe des mécanismes. C'est pas exactement des audits, mais qu'on essaie de mettre en place pour permettre aux entreprises d'évaluer l'impact potentiel négatif que pourrait avoir leur technologie, surtout pour des technologies de prise de décision. Maintenant. Dans le cas du texte de l'UNESCO, l'absence des États-Unis, l'absence d'Israël là-dedans, je pense que c'est un problème géopolitique important à l'échelle planétaire. Proche du plancher des vaches, là, quand je parle à mes collègues product managers, mes collègues ingénieurs aux États-Unis, il y a une sensibilité pour ça qui se traduit pas nécessairement par une sensibilité au niveau de l'entreprise pour lesquelles ils travaillent. Donc, il y a une distance à faire, mais il y a une conscientisation qui existe, qui est de plus en plus présente. Il va falloir que ça évolue. C'est tout le jeu de la politique, des lobbies, tout ça qui va rentrer en ligne de compte. Mais le travail que vous faites avec ce podcast-là, à mon avis, est positif. Et plus on va en parler, plus il va y avoir de pression pour que le changement arrive. À mon avis, un des principaux problèmes auxquels on fait face, si on fait pas de changement de ce côté-là, c'est que ça devient de plus en plus difficile pour nous comme société de s'aligner, puis on se divise de plus en plus, c'est de plus en plus facile de diviser, et quand on est divisé, c'est difficile de prendre une décision tous ensemble pour progresser.
Eh bien, ça va être intéressant de continuer à suivre tout ça de près. Je regarde aussi certaines initiatives telles que celle de Joy Buolamini, si je me trompe pas, avec son algorithmic Justice League, qui justement continue de sensibiliser, d'intéresser les gens, créer de la conscientisation autour de ces questions. Donc, oui, ça va être intéressant de continuer de suivre tout ça de très près.
Il y a aussi, vous avez mentionné le Social Dilemma. La personne derrière ça est aussi en charge d'un site qui s'appelle... comment ça se fait que ça m'échappe? Ça s'appelait Time Well Spent avant et ça a changé de nom, mais c'est similaire aussi. Une autre belle initiative pour essayer de sensibiliser les gens à l'impact négatif que les algorithmes de recommandation peuvent avoir dans leur vie.
Maintenant, j'aimerais ça parler de Montréal. Montréal, qui occupe aujourd'hui une position prédominante au sein de l'intelligence artificielle. Mais si on veut se comparer à la Silicon Valley, quel avantage concurrentiel on trouve ici versus la Silicon Valley? Que viennent chercher, par exemple, des investisseurs américains qu'ils ne trouveraient pas à la Silicon Valley?
C'est une belle question. Je pense, ne serait-ce qu'en termes de nombre, c'est sûr qu'on ne fait pas le poids là, comparativement à la Silicon Valley ou d'autres pôles importants. Mais quand je me pose la question, c'est quoi la vraie différence, c'est quoi le vrai avantage qu'il peut y avoir à Montréal? C'est peut-être un peu prétentieux, mais je pense que c'est au niveau justement de la sensibilité aux questions éthiques. La sensibilité aux questions, et cette sensibilité-là, autant au niveau... Des employés, mais ça existe aussi dans la Silicon Valley, qu'au niveau des entrepreneurs eux-mêmes, et même, je dirais, des investisseurs. On a vraiment le sentiment qu'ici, ça prend une importance particulière de développer des entreprises qui sont soucieuses de leur impact social, de leur impact environnemental. Et je sais pas, c'est comme un peu dans notre ADN, ça nous vient naturellement, puis je pense que c'est une force qu'on a. Si on regarde la tête d'affiche de notre milieu d'intelligence artificielle à Montréal, qui est Yoshua Bengio, ben c'est un petit peu le résistant, le Astérix de la gang de l'intelligence artificielle. Hein. Il est pas allé travailler chez Google, il est pas allé travailler chez Facebook, chez Amazon. Il est resté un peu indépendant. Puis à chaque fois qu'il prend la parole, on l'entend parler des choses qui lui tiennent à cœur, qui sont justement l'impact social, l'impact environnemental des technologies auxquelles il va participer. Et je pense que sa position très visible au sein de l'écosystème d'intelligence artificielle de Montréal a des répercussions. Tout le monde voit un peu ça comme ça dans notre écosystème. Et à mon avis, c'est notre force. Je pense que ça va être le moteur des entreprises qui vont avoir le plus d'importance puis d'impact dans notre futur. Et je trouve ça intéressant qu'à Montréal, on se positionne particulièrement bien sur ce plan-là.
Et effectivement, aussi en termes de... Parce que tout à l'heure, tu parlais de la conscientisation, le fait que les principaux acteurs du domaine sont de plus en plus conscientisés aux questions d'éthique. Est-ce que toi, tu as pu observer justement de nouvelles façons de faire parce qu'on veut s'adapter, on veut faire plus attention? Est-ce qu'il y a des nouvelles façons de programmer qui sont davantage mises en avant ou encouragées, par exemple? Est-ce que tu as des exemples?
Oui, je sais pas si ça s'est rendu jusqu'aux façons programmées encore. Dans le cas de l'apprentissage machine, on parlerait peut-être un petit peu plus de la façon dont on va aller acquérir les données. Hein. C'est ça qui a l'importance la plus grande, c'est l'ensemble de données qu'on va acquérir, qu'on va utiliser pour entraîner nos systèmes par la suite. Je ne sais pas si ça a vraiment encore eu un impact de ce côté-là, mais ça a définitivement un impact au niveau des conversations. Je parlais récemment avec une employée de la compagnie Hugging Face, qui fait un des moteurs de compréhension de la langue naturelle les plus populaires au monde. Et son nom, c'est Sacha Luccioni, elle s'intéresse justement à l'impact éthique, donc au biais qui pourrait se glisser dans le système, et elle est intégrée à l'équipe qui développe ça. Même si c'est une start-up relativement petite, on voit qu'il y a déjà un intérêt à se pencher sur ces questions-là. Au niveau de la façon dont on programme, quand on acquiert les données, c'est pas nécessairement totalement ancré dans les pratiques encore. Mais je pense que ça va se développer beaucoup au cours des prochaines années.
Oui, mais certainement. Et est-ce qu'il y a des travaux récents en termes de... Si on veut parler du futur des algorithmes, est-ce qu'il y a des travaux qui attirent particulièrement ton attention en termes de futur des algorithmes, en fait?
Oui, je reste au fait de la littérature scientifique dans le domaine... un peu moins activement que quand j'étais moi-même chercheur, ça progresse. J'ai de la difficulté à dire c'est quoi le prochain, à prédire ça va être quoi le prochain breakthrough, la prochaine innovation qui va tout changer. La plupart encore s'intéressent plutôt à faire progresser notre compréhension de l'intelligence artificielle, pour nous amener dans la direction de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale, qui serait une intelligence artificielle capable de faire tout ce qu'un humain est capable de faire. En ce moment, on a encore beaucoup de problèmes avec les systèmes d'intelligence artificielle qu'on développe, surtout au niveau de ce qu'on appelle leur capacité à généraliser. On peut faire un système qui joue bien aux échecs, on peut faire un système qui joue bien au Go, mais pour faire un système qui joue bien aux deux, il faut entraîner sur les deux ensembles de données. On peut pas espérer encore qu'un système qui a appris à jouer aux échecs soit automatiquement un petit peu meilleur au Go. On n'est pas très bon là-dedans, ce qu'on appelle le problème de généralisation. Et ça pointe à une limitation intrinsèque de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire il y a quelque chose qu'on fait là, qui n'est pas tout à fait comme des cerveaux humains, là, parce qu'un cerveau humain, c'est capable de transférer ce que ça a appris dans un domaine vers un autre domaine, puis nos intelligences artificielles ne sont pas très bonnes là-dedans encore. Donc, beaucoup des progrès qu'on voit aujourd'hui sont à ce niveau-là. Certains des travaux auxquels moi-même j'ai participé, j'ai collaboré, des travaux de recherche qui sont publiés aujourd'hui, vont dans cette direction-là. C'est ça, il n'y a pas encore eu de gros breakthrough. La dernière grosse innovation là, qui a eu un gros impact, c'est au niveau des modèles de langage. Donc, pour comprendre la langue naturelle et synthétiser de la langue naturelle, donc créer des nouveaux textes. Le papier qui a eu beaucoup d'impact s'appelle GPT-3 et ça c'est quand même assez rigolo, là. On peut commencer à écrire un texte et le système va le compléter pour nous. Sinon, il y a des innovations pratiques de l'intelligence artificielle qu'on voit de plus en plus. comme la capacité à utiliser l'intelligence artificielle pour prédire comment les protéines vont se replier, ce qui peut nous aider beaucoup, beaucoup à développer des médicaments, par exemple.
Intéressant. Et au niveau de Waverly, pour terminer, au niveau de Waverly, quelles sont vos prochaines étapes? Comment est-ce que vous avancez dans la création de cet algorithme bienveillant?
Oui, donc on a passé la première année à développer notre engin de recommandation en base de langue naturelle. On a le premier prototype qui fonctionne en ce moment. Et là, on est en train de développer une plateforme qui utilise cet algorithme-là pour permettre aux gens de lire, consommer des informations, des articles, dans notre cas, des articles écrits, mais qui seraient alignés ou en adéquation avec les aspirations qu'ils ont exprimées dans leur wave, les textes qu'ils ont écrits. Et là, cette plateforme-là, elle est ouverte. C'est une bêta fermée, donc on a à peu près 100 d'utilisateurs qui sont sur la plateforme, qui l'utilisent, certains presque quotidiennement. Et là, on est en train de voir comment l'améliorer. Puis, on pense qu'on, au courant de cette année, on va avoir une plateforme qu'on va pouvoir ouvrir à tous les autres utilisateurs. Et tout le monde va pouvoir découvrir ce que c'est d'avoir un algorithme bienveillant qui nous aide à consommer de l'information.
Alors, c'est sûr qu'on va regarder ça aussi et puis faire attention de rester très près de cette nouvelle aussi. Donc, Philippe, comment certains auditeurs pourraient te rejoindre s'ils souhaitent en savoir plus?
Donc, une des meilleures façons, c'est d'aller sur mywaverly.com et d'inscrire votre adresse email là. Vous allez recevoir un courriel de moi à chaque mois qui vous dit comment Waverly progresse. Et sinon, vous pouvez me suivre. Je suis plutôt actif sur Facebook de manière publique. Vous pouvez me suivre assez facilement là-dessus. Je suis aussi sur Twitter, LinkedIn.
Parfait. Est-ce que tu aurais des lectures à conseiller pour nous aider à approfondir le sujet, les algorithmes, l'intelligence artificielle, surtout pour les profanes hein, comme nous?
Oui, je pense qu'un un tout petit livre, mais qui est génial et qui est très perturbant, mais à la fois qui nous permet de mieux nous comprendre face à ça, s'appelle « Stand Out of Our Light » de James William. Donc, c'est un tout petit bouquin et vraiment là, fascinant. Ça a été écrit il y a quelques années déjà, mais c'est criant d'actualité. Je vous recommande ça. Stand Out of Our Light.
Parfait. Alors, c'est bien noté. Merci, Philippe. Et à la prochaine.
Merci beaucoup.
Merci d'avoir écouté Futuristique 3.0. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à mettre des commentaires et surtout à le repartager sur vos réseaux sociaux. Restez à l'affût du prochain épisode sur toutes les plateformes d'écoute et suivez-moi, Lauren Cesso, sur LinkedIn et Twitter. À bientôt!